RFI, il est 21h à Paris, 23h à Istanbul.
Juliette Pietraszewski.
À la une de ce journal en Turquie, une nuit de la démocratie convoquée par l'opposition. Elle revendique 300 000 manifestants à Istanbul dans les rues pour dénoncer donc l'arrestation du maire Ekrem İmamoğlu malgré les avertissements du président Recep Tayyip Erdogan. En Israël, la Cour suprême a suspendu la décision inédite du gouvernement de limoger le chef du Shin Bet, l'agence de la sécurité intérieure. Le premier ministre Benjamin Netanyahou menace de passer outre la décision de la Cour suprême. Dans ce journal aussi, alors que Donald Trump est en pleine guerre commerciale, Johnson & Johnson, le plus grand fabricant de médicaments au monde, va investir plus de 55 milliards de dollars aux États-Unis sur 4 ans. Les détails dans un instant. Et puis en France, top départ du SIDAction ce soir, la grande opération de collecte de fonds pour la lutte contre le VIH. Vous entendrez la directrice de l'association en fin de journal. En Turquie, au troisième jour de manifestation déclenchée par l'arrestation du maire d'Istanbul pour terrorisme et corruption, la contestation se durcit. Ils avaient initialement appelé à une nuit de la démocratie. L'opposition à Recep Tayyip Erdogan a organisé une grande manifestation donc pour dénoncer l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Julien Chavan, ce soir, la mobilisation est massive et le moins qu'on puisse dire, c'est que le climat est tendu.
Oui, l'opposition revendique la présence de 300 000 personnes dans le cortège à Istanbul ce soir, et cela malgré l'interdiction des autorités. Les manifestants avaient rendez-vous devant l'hôtel de ville. Sur les pancartes, on peut lire « N'ayez pas peur, le peuple est là » ou encore « Droit, loi, justice ». C'est le troisième jour de mobilisation. Le CHP, le parti du maire d'Istanbul, veut donc maintenir la pression.
Et en face, les forces de l'ordre ont été déployées en masse.
Des incidents sont signalés. À Istanbul, les policiers ont tiré des balles en caoutchouc. Et à Izmir, troisième ville du pays, les forces de l'ordre ont utilisé des canons à eau. On apprend aussi que le bâtonnier d'Istanbul et les membres de son conseil de l'ordre ont été démis de leurs fonctions aujourd'hui, poursuivis pour propagande terroriste et diffusion publique de fausses informations. Le maire d'Istanbul, lui, est toujours en garde à vue, accusé de corruption et de terrorisme. Et puis au sommet de l'État, Recep Tayyip Erdogan, lui, reste inflexible. La Turquie ne sera pas livrée à la terreur de la rue, a prévenu le président turc.
Les précisions de Julien Chavan du service international de RFI. Au Soudan, il n'y aura pas de négociation, déclaration du chef de l'armée soudanaise Abdel Fattah al-Burhan ce vendredi à l'attention des paramilitaires des forces de soutien rapide, les FSR, tant qu'ils ne se retireront pas et ne déposeront pas les armes. Après la reprise du palais présidentiel par ses troupes à Khartoum, le chef de l'armée soudanaise a tenu ses propos devant des soldats lors de funérailles de deux militaires tués dans une frappe de drone des FSR. Au Proche-Orient, des frappes à Gaza sur des bâtiments de l'ONU ont tué un employé bulgare. Deux Français ont également été sérieusement blessés. Paris a exprimé sa consternation. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères français appelle à ce que toute la lumière soit faite rapidement sur les responsabilités de cet incident. Le ministère rappelle également que la protection du personnel humanitaire doit être garantie en toutes circonstances, conformément au droit international humanitaire. Fin de citation. Depuis mardi, Israël a repris les bombardements sur Gaza, rompant une trêve de 2 mois, faisant plus de 1000 morts en 48 heures, a déclaré le ministère de la Santé du Hamas. Israël, de son côté, est au bord de la crise constitutionnelle. La Cour suprême suspend le limogeage de Ronen Bar, chef du Shin Bet, le chef du service de sécurité intérieure, révoqué par le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Avec cette suspension de limogeage, la plus haute instance judiciaire israélienne va prendre le temps pour examiner d'ici au 8 avril 5 recours contre la décision annoncée par l'exécutif dans la nuit. Benjamin Netanyahou menace de passer outre la décision de la Cour suprême. La procureure générale a de son côté mis en garde le Premier ministre. Si le limogeage de Ronen Bar n'est donc pas encore effectif, le sujet fait vaciller les institutions. À Jérusalem, Michel Paul.
La Haute Cour de justice israélienne suspend le limogeage du directeur du Shin Bet à la demande de plusieurs partis d'opposition. Mais attention, à ce stade, il s'agit seulement d'une injonction temporaire. Dans les jours qui viennent, les juges devraient se réunir pour trancher sur la question. En tout cas, les leaders du mouvement de protestation saluent cette décision. Le temps est venu de rendre le pouvoir au peuple, affirme-t-il. De son côté, le Premier ministre Benjamin Netanyahou campe sur ses positions. Selon la loi, c'est le gouvernement qui décide qui dirige les agences de renseignement, proclame-t-il. La procureure générale d'Israël souligne pour sa part que tant que la Cour n'a pas statué de manière définitive, il est interdit de prendre toute mesure portant atteinte au statut du chef du Shin Bet. Pas de nouvelle nomination, ni même de contact à cet effet, explique-t-elle. Gali Bahrav Miara fait elle-même l'objet d'une procédure de destitution lancée par l'exécutif. Mais ce n'est pas tout. La Histadrut, la grande centrale syndicale israélienne, l'Israel Business Forum qui représente les plus grandes entreprises privées du pays et les pouvoirs locaux menacent de mettre à l'arrêt l'économie israélienne si le gouvernement ne respecte pas le référé des juges de la Cour suprême. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Il y aura bientôt un cessez-le-feu plein et entier en Ukraine. Déclaration ce vendredi de Donald Trump. Depuis son retour à la Maison-Blanche, des interrogations persistent sur la suite de la guerre entre Russes et Ukrainiens. Kiev et Moscou ont à nouveau échangé des frappes cette nuit, s'accusant mutuellement d'avoir bombardé sur le sol russe une importante station de pompage et de mesure de débit du gaz distribué, occupé par les forces ukrainiennes. Tout ça à 3 jours de pourparlers prévus lundi en Arabie Saoudite par l'intermédiaire des États-Unis. L'Ukraine a dit souhaiter que les pourparlers aboutissent au moins à un moratoire russo-ukrainien sur les frappes contre les sites énergétiques, les autres infrastructures et en mer Noire. Au-delà du dossier ukrainien, le président américain Donald Trump a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat avec Boeing pour une nouvelle génération d'avions, en l'occurrence des avions de combat furtifs baptisés F-47. Et dans le contexte de la guerre commerciale engagée par le président américain, de plus en plus de laboratoires pharmaceutiques américains qui exploitent de grandes usines hors des États-Unis décident d'investir massivement dans le pays. C'est le cas de Johnson & Johnson, le plus grand fabricant de médicaments au monde. Le géant américain va investir plus de 55 milliards de dollars aux États-Unis sur 4 ans. On en parle avec Agnieszka Kumor.
Johnson & Johnson prévoit notamment la construction d'une usine de haute technologie à Wilson, en Caroline du Nord. 2 milliards de dollars seront nécessaires pour construire ce site qui aura pour objectif la fabrication des traitements contre le cancer, contre les maladies auto-immunes et neurologiques. Au total, plus de 55 milliards de dollars devraient être investis par Johnson & Johnson sur les 4 prochaines années afin d'agrandir ces sites américains existants et de construire de nouvelles infrastructures. Cette déclaration intervient alors que de plus en plus de laboratoires américains décident de faire pareil. Le mois dernier, l'autre fabricant de médicaments américain, Eli Lilly, spécialiste des traitements contre l'obésité, a déclaré qu'il dépenserait 27 milliards de dollars dans de nouvelles usines aux États-Unis au cours des 5 prochaines années. Les entreprises se préparent à l'impact d'un éventuel tarif douanier de 25% sur les importations de produits pharmaceutiques.
Agnieszka Kumor. En France, Medine Mouche vient d'être condamnée à la perpétuité. Accusée d'avoir été geôlier de journalistes français à la solde du groupe État islamique en Syrie en 2013. Il avait déclaré plus tôt dans la journée devant la cour d'assises spéciale de Paris qu'il ne s'excuserait jamais d'avoir été un terroriste. Fin de citation. On reviendra sur ce procès dans le journal de 24 heures en France à 23 heures, heure de Paris. Toujours en France, à partir de ce vendredi soir et tout au long du week-end, c'est le SIDAction, grande opération de collecte de fonds et de mobilisation pour la lutte contre le VIH. L'occasion aussi de parler du virus alors que continue de circuler un certain nombre d'idées fausses qui alimentent la discrimination. Écoutez Florence Thune, elle est la directrice de SIDAction.
Aujourd'hui, malheureusement, on voit encore que beaucoup d'idées fausses continuent de circuler sur le VIH. Ce sont des idées aussi qui entraînent de la discrimination, puisqu'on voit que dans les sondages qu'on mène encore aujourd'hui, une part importante des jeunes pensent qu'on peut être contaminé par le VIH en embrassant une personne séropositive, en partageant un verre d'eau. Donc on voit à quel point il y a à la fois des idées complètement fausses et souvent une méconnaissance des vrais modes de transmission et surtout des modes de prévention. Donc on a encore un combat très fort à mener dans tous les pays, notamment auprès des jeunes, mais pas que, pour leur rappeler les modes de prévention, les modes de transmission. On rappelle que le VIH se transmet par voie sexuelle ou par voie sanguine en cas de, par exemple, de partage de seringues non stériles. Et on rappelle donc que le VIH ne se transmet pas en embrassant une personne, en partageant le même verre d'eau, en serrant la main d'une personne séropositive. Ce qui est important aujourd'hui de rappeler, c'est que quand les personnes sont sous traitement, non seulement elles restent en bonne santé, mais en plus elles ne peuvent pas transmettre le virus. D'où l'importance de l'accès au dépistage et de la mise sous traitement.
Florence Thune, directrice de SIDAction, interrogée par Valérie Cohen. Et vous pouvez faire un don sur le site internet du SIDAction.